One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine.
Are we on the air?
Oh, salut les PD!
SLP, salut les PD, c'est parti. Salut Ariane, comment vas-tu ?
Je suis triste.
Tu es triste, moi aussi. Mais il va falloir qu'on tienne le choc quand même, hein ? Alors, on explique à nos amis auditeurs pourquoi nous sommes tristes. Ghislain n'est pas là ce soir. Pour commencer un nouveau mois, on est en mai, mais en fait on commence un nouveau mois à SLP, puisqu'on est déjà sur la thématique du mois de juin. On a décidé de faire 5 émissions et on commence fin mai. On prend de l'avance et on hisse...
En prenant du recul.
Et surtout en hissant haut les couleurs, Ariane.
Bah oui, il faut quand même. On aimerait bien que le soleil se hisse plus haut ou plus bas que les nuages, je ne sais pas.
Non, mais ça, c'est râpé pour cet été.
Non, pareil.
On nous annonce un été pourri, hein. il faut se faire une idée, de toute façon. Donc, raison pour laquelle on parle couleurs, donc ce mois-ci. On a décidé de choisir très arbitrairement.
C'est pas du tout par hasard, ça va être très vite apparent, je pense.
Ouais, cinq thématiques colorées pour ce mois de juin. Le rose.
Cette semaine.
Le bleu.
La semaine prochaine.
Le mauve, violet.
Le violet.
Violet. Le noir. Qu'on fera en quatrième semaine et pour
même.
Finir, on a triché.
Non, c'est pas de la triche.
C'est pas de la triche ?
Non, c'est pas de la triche.
Cinquième semaine, ça sera couleur arc-en-ciel.
Voilà.
Pourquoi les couleurs ? Ben, tout simplement parce qu'on avait envie d'en parler. À la radio, c'est sympa, les couleurs. et surtout, c'est effectivement choisir ces couleurs comme ça, dont on a envie de parler parce qu'elles nous évoquent plein de trucs. Pas forcément des choses qu'on nous raconte dans les bouquins ou ailleurs. On a envie de bousculer un peu les idées reçues là aussi. On commence par le rose. Hein.
Mais on va commencer par ce que tu viens de dire en général, peut-être, en fait. Parce que du coup, il va parler de jaune. Il s'agissait de Michel Pastoureau.
D'accord, ok. On l'écoute ?
On l'écoute.
Pour les sciences humaines en général et pour l'histoire en particulier, il n'y a pas de vérité universelle dans le domaine des couleurs et encore moins dans le domaine de la symbolique des couleurs, mais il y a au contraire un relativisme culturel qui est très fort. Les choses changent avec les époques, avec les sociétés, même en se limitant à une seule société. Au fil du temps, les définitions, les classifications, les significations des couleurs changent beaucoup.
Justement, elles sont vues très différemment, par exemple d'une culture à une autre, d'un pays à un autre. Le jaune peut ne pas avoir la même signification ?
Oui, par exemple, aujourd'hui, dans une large partie de l'Asie, le jaune est une couleur très, très valorisée, et le blanc, pas du tout, qui est signe de mort, par exemple.
À l'inverse de nos contrées, où c'est le noir.
Voilà. Mm-hmm. Et les grandes firmes multinationales qui ont des stratégies publicitaires pour vendre leurs produits le savent très bien et ont des publicités en couleurs différentes selon qu'elles s'adressent à telle ou telle région du globe, parce que la couleur n'est pas vécue de la même façon.
Mais ça peut même être un peu effrayant, parce qu'elles peuvent même nous classer socialement et nous donner une valeur dans la société. Vous avez tout un chapitre sur le bronzage, par exemple, parce que c'est la couleur même de la peau.
Oui, nous sommes, malgré nous, classés, jugés, mis en chiffres par nos pratiques de la couleur, vêtements, mais aussi d'autres choses, parfois de manière bien naïve. Hélas, je prends mon exemple personnel, moi je m'habille assez souvent en foncé, en noir, en gris, en bleu marine. On pourrait croire que j'aime ces couleurs, mais c'est plus compliqué que ça. Étant un homme corpulent, je choisis les couleurs foncées parce que je crois que c'est un amincissement. Donc je serais furieux qu'on tire un profil psychologique de ma personne simplement par les couleurs que je porte.
Oui, on sursaute parce que
Olivier nous prévient que c'est voilà. bientôt la fin du son et c'est beaucoup plus fort que le reste du son, alors ça nous trouble.
Ça nous a perturbés. Ce qui nous perturbe aussi, c'est... Enfin, ce qui nous perturbe... Là, moi, je viens d'apprendre un truc hallucinant, c'est qu'en fait, les firmes multinationales, une fois de plus, nous manipulent parce qu'elles ont un savoir, à la limite, qui est plus grand que celui du commun des mortels, en tous les cas, du commun des consommateurs. En fait, elles connaissent très bien leur relativité du symbolisme des couleurs. Elles s'en servent.
En tout cas, par rapport à l'espace géographique. Mais je veux dire, on l'a vu au fur et à mesure... par exemple, les premiers McDo qui ont ouvert en France, c'était rouge, le fond du M jaune.
Ouais.
Et c'était même associé à la couleur des toits en briques, pour ceux qui étaient construits, qui devaient faire couleur locale, etc. Et quand on a jugé la couleur rouge trop agressive, c'est passé au vert. Mmh. Et ils ont même recouvert les toits tuilés de trucs verts passer au vert. Quoi. Mmh. C'est du greenwashing. Très joli mot.
Greenwashing.
Bah là, c'est très littéral comme lecture du greenwashing. Mmh. C'est passer au vert.
Donc, oui, il insiste bien effectivement là-dessus. Donc, il y a vraiment cette notion de relativité qui est à prendre en compte. Alors, aujourd'hui, on a décidé de parler de rose. Il y a plein d'idées reçues sur le rose. Eh ben, on va les casser, on va les déconstruire tout au long de l'émission. Tu es d'accord ?
J'aimerais bien que ça aille très très loin, tu vois, ce qu'on est en train de faire. J'aimerais bien que ça puisse se répandre, se ramifier très très loin, parce que malheureusement... on en a eu plein les yeux du rose.
Récemment ?
Oui, bleu aussi, mais on en parlera la semaine prochaine. Mmh.
Tout seigneur, tout honneur, on va commencer, oui, en forme d'hommage à Ghislain
aussi, oui.
On va écouter un petit son de Barbara Cartland, puisque c'est la reine des dames roses, on va dire.
Pourquoi dame tout de suite?
On l'écoute.
We all want our love to be for always. We cannot bear to think of the rapture and wonder of it coming to an end. And we strive with our hearts and souls to make it last forever. I'll be loving you.
Quoi, tout de suite? Tu veux qu'on arrête,
Non, je ne vais pas arrêter.
Non.
Tu as oublié que je devais intervenir. Laisse non, Barbara chanter.
Tu veux intervenir.
Mais oui, je veux dire bisque, capucine, carnet, chair, coquille d'œuf, cuisse de nymphe, fraise écrasée, cuisse de nymphe émue, framboise, fuchsia, incarnadin, incarnat, magenta, nacara, pêche, balai, bonbon, dragée, Mountbatten, thé, tyrien, saumon et ventre de biche.
Ventre de biche.
C'est mignon, ventre de biche. Ouais. Ça te plaît?
Beaucoup.
Not for just a day. Not for just a year. But
Donc je fais aussi une allergie au son sur le rose, ce n'est pas juste la couleur elle-même, mais quand ça chante trop rose bonbon, j'ai un gros problème avec le rose.
Non,
mais
je te suis là-dessus. Enfin, en plus, bon, donc ça, c'était Barbara Cartland, qui apparemment a fait carrément tout un album. Là, le titre qu'on entend, c'est Always, un standard du jazz anglo-saxon. Je suis pas sûr que ce soit ce qu'elle ait fait de mieux. Enfin, ceci dit, moi, je suis pas un spécialiste des romans de Barbara Cartland non plus. Mais bon, c'était une petite pensée pour Ghislain qui n'est pas avec nous ce soir. Voilà.
On peut arrêter ? C'est insupportable, non ?
On arrête alors.
C'est horrible, je sais pas. Moi, j'ai vraiment du mal, hein. C'est bon, moi aussi, j'ai quelque chose dans mon histoire personnelle par rapport aux roses, où justement, c'était vraiment, C'était une couleur liée au conflit, puisque ma grand-mère voulait que je sois une gentille petite fille habillée en rose.
Forcément,
voilà,
en rose.
Et c'était insupportable pour ma mère. Donc, dès que ma mère avait le dos tourné, ma grand-mère m'habillait en robe et en rose. Et voilà. Et donc, pour moi, c'est une couleur qui est associée à des choses très conflictuelles et qui me met dans des états de ça m'énerve très, très fort. Vraiment,
on y reviendra en deuxième partie d'émission, mais c'est aussi une couleur relativement ambiguë, le rose, en fait. Tu voulais nous parler... Oui. J'y reviendrai plus tard.
D'accord,
Par contre, tu voulais nous parler... tu nous as cité un certain nombre de nuances de rose, magnifiques, très poétiques, mais tu voulais parler d'actualité aussi.
D'une actualité un petit peu décalée dans le temps, puisque donc c'est déjà Roland-Garros, même s'il pleut sur Roland-Garros, c'est quand même...
Oui, c'est ça a commencé, mais les matchs n'ont pas eu lieu.
Voilà, c'est un peu ça. Et l'année dernière, à la veille des phases finales du tournoi féminin, ils ont recouvert un des terrains d'une terre battue teintée de fuchsia. C'était pas forcément très heureux, mais ça a été l'occasion, au moins sur TV5 Monde, d'une petite chronique que je trouvais très à propos pour nous ce soir, matin.
On écoute alors.
Cette semaine.
On écoute.
L'Histoire en marche avec Thomas Negaroff. Et donc c'est le rose qui vous inspire aujourd'hui, le rose, couleur de la terre battue pour les demi-finales femmes. C'était pour rendre hommage donc aux joueuses de tennis, hein, à Roland-Garros. Un hommage un peu cliché, non?
Oui, alors on avait, en fait, pour être précis, il n'y a pas eu de match du tournoi de Roland-Garros sur cette surface assez étonnante, ce rose qu'on n'est pas habitué à voir à Roland-Garros, on voit sur cette image. On avait couvert le court numéro 1, parce qu'effectivement, sur le central, se jouaient les demi-finales féminines. Et donc, c'était l'idée géniale des organisateurs. Tiens, et si on associait le rose aux filles? Et moi, je me suis dit, mais depuis quand est-ce qu'on associe le rose aux filles? Et en effet, rien n'est évident dans cette histoire. Alors je crois qu'il faut, pour le coup, déjà battre une idée en brèche, c'est que le rose n'a pas toujours été associé aux filles. Par exemple, au Moyen-Âge, les chevaliers avaient leur badge rose qui était rose. Donc c'était plutôt une image de virilité.
Non,
même si, eh oui,
le rose était
même si,
une image
même
de virilité.
Même si la rose était en revanche signifiant l'amour dès l'Antiquité. Par exemple, chez les Grecs, la rose était la fleur d'Aphrodite. Donc en effet, déjà, quand même, on est plutôt sur des valeurs attribué évidemment aux femmes.
Alors depuis quand le rose est devenu le symbole des filles, des femmes, bref le symbole de la féminité?
Et des petites filles. Alors c'est très difficile de dater évidemment, quoique j'ai trouvé un moment important, je crois, c'est au XVIIIe siècle en France, et ça vient d'une innovation à la fois artistique et technique. C'est Philippe Rouet, qui est un peintre belge de la ville de Spa, qui est un inventeur d'un nouveau rose sur la porcelaine de la manufacture royale de Sèvres, et il parvient à effectivement réaliser des magnifiques choses en porcelaine rose. On voit derrière moi une assiette qui est peut-être pas de votre goût, mais qui à l'époque est très à la mode, surtout qu'elle est récupérée par Madame de Pompadour, la favorite de Louis XV, qui adore ce rose et qui va couvrir absolument tout de rose, y compris ses robes. Et bien sûr, dans une logique de cour, entre 1758 et 1766, partout, le rose va s'imposer à Versailles, notamment chez les petites filles, sur les pots de chambre, sur les lits. Et c'est à ce moment-là que le rose est associé, je crois, peut-être définitivement, au moins en Occident, bien sûr, à des valeurs féminines.
SLP, l'émission qui vaut trop le cucu.
Ah oui, la voix de Ghislain.
Bon, relativement récent alors, cette symbolique ultra féminine du rose. Bah,
tout est relatif, mais c'est vrai que pour moi, il y a eu une montée en puissance aussi liée à l'ère capitaliste et tout côté marchandisation, et puis aussi... tout le côté mondial de où on nous prête tu vois un symbolisme universel et c'est comme si les choses étaient donc contrairement à ce qu'on a entendu en début d'émission on nous laisser croire que on aurait tous exactement les mêmes besoins et les mêmes repères symboliques jusque dans l'inconscient. Voilà, c'est très, moi je trouve ça assez difficile de sortir de la dictature. D'ailleurs on l'entend en fait dans le son, l'historien est moins sexiste est moins accroché au symbolisme du rose que la présentatrice, oui, que la journaliste.
Il en a une connaissance plus ample, plus large.
Oui, mais c'est intéressant pour une personne qui est peut-être plus directement aux prises avec une oppression sexiste, qui est quand même complètement dans le moule, quoi. Bien rose.
Et alors, il n'y a jamais eu de match sur ces fameux cours
Fuchsia. C'était pour faire joli, enfin. D'accord. De toute façon, les filles qui portent du rose, est-ce qu'elles font du sport? Pourraient se casser un ongle? Un ongle verni de rose.
Ça me fait penser, le tournant, il le date du 18e, c'est ça. Je crois savoir que le... Alors là, on parle parfum, mais comme le rose est issu, enfin la dénomination du rose est issue de la fleur, la rose. En fait, au XVIIe, XVIIIe siècle, les parfums de rose étaient des parfums virils et masculins. Donc c'est intéressant de voir le rapport.
Ah oui, mais enfin oui, du coup, la volonté de se l'approprier, le rose, on ne sait pas non plus d'où il est venu, parce que là, il parle de mise à disposition technique au niveau de l'émail, mais la récupération, c'était peut-être justement parce que c'était un attribut de pouvoir à ce moment-là que c'était intéressant pour une favorite de le récupérer, alors que c'était un pouvoir qui était jugé illégitime, et pourtant qu'elle exerçait. Donc voilà, le côté vraiment social, sociétal qu'il peut y avoir derrière, ce leçon qu'on a gardé n'en rend pas compte, mais voilà, il y a
ça derrière.
Éventuellement, j'en sais rien, c'est une hypothèse.
Petite pause musicale.
Ah oui.
Un classique.
Just
Alors, on va pas désannoncer ça quand même.
Si. Si, si.
Bon, c'est qui?
C'est Grace Jones.
Yes. Bon, ta version préférée, c'est la sienne ou ça reste celle d'Edith?
Ah non, mais Grace Jones, c'est indépassable. Enfin, je sais pas, c'est... Puis en l'occurrence, ça donne un relief tout autre à cette chanson quand même.
On est d'accord. Rose, on y revient. Moi, je suis quand même allé jeter un œil dans des dictionnaires et notamment Wikipédia, pour ne pas le nommer. Et c'est quand même intéressant parce qu'il pointe vraiment, quand même, ce que j'évoquais tout à l'heure, l'ambiguïté de la couleur. Alors certes, effectivement, aujourd'hui, c'est hyper connoté, layette, rose, petite fille, rose bonbon, etc. Mais malgré tout, ils insistent sur le fait que c'est effectivement une couleur ambiguë et que notamment au Moyen-Âge, c'était vraiment la couleur virile par excellence.
Donc, pas seulement sur les bas de chausses, alors.
Pas seulement sur les bas de chausses. C'est aussi une couleur qui une couleur organique, donc notamment en médecine, on considère que c'est une couleur, la couleur de certains organes. C'est un signe de bonne santé, en particulier lorsque ta langue est très très rose, tes pommettes sont très très roses, c'est que
je
tu es en
langue.
Pleine santé. Donc il y a le rose chair, effectivement le rose évoque la chair aussi, la nudité, la sensualité et donc forcément l'érotisme et le sexe.
Quand tu es caucasien donc.
Quand tu es caucasien, tu as raison. Enfin, ceci dit, la langue rose, non, je pense
non,
que...
Non, mais je pensais à la chair, tout ça,
oui,
le sexe,
exact,
machin, excusez-moi. Hein, mm-hmm.
Donc, ambivalence forte, avec effectivement, il y a le rose layette, le rose cuculapraline, mais il y a aussi le rose utilisé par des personnalités plus fortes, on a cité Barbara Cartland,
N'est-ce pas Gislain,
mais aussi des groupes de rock, de psychédélisme américains qui ont utilisé le rose.
Ou des collectifs transpédéguines plus locaux, style Pink Freaks.
Pas, ils en sont où, les Pink Freaks?
Je crois que c'est encore en dormance, mais il y a des petits sursauts, j'attends d'en savoir plus.
Ouais. Tu voulais aussi nous parler d'autre chose, Ariane?
Oui, je voulais parler de Pink Stinks. Je voulais parler des gens qui, comme moi, trouvent que le rose, ça pue. Pink Stinks.
Et si
rose,
on mettait un petit
pue.
Fond musical pour parler de tout ça, un truc
oui,
italien?
Oui, ça m'a vu m'éviter de m'énerver.
Ouais.
C'est mieux.
Mm-hmm.
Encore que cette magnifique chanson appelle à une forme de sauvagerie. Non, je déconne.
Bah si, quand même, ouais.
Bah Wild Rose. Donc oui, un des trucs qui m'a un petit peu irritée alors que je me prépare à aller à Berlin, c'est qui est installé en ce moment et pour encore plusieurs semaines, la Barbie Dream House. C'est une appellation très germanique. Donc la maison de rêve de Barbie, le truc qui fait genre 1400 mètres carrés. Et c'est la maison de poupée à échelle humaine.
Mais qui est à l'initiative de ça?
Mais Barbie, Mattel, enfin tu vois la marque quoi.
D'accord.
C'est une façon de promouvoir la marque et de permettre la transmission de génération en génération, puisque quand même la première Barbie elle date de 59 je crois. Donc,
oui,
pour
parce qu'on
que
a
ça...
fêté le cinquantenaire, oui,
voilà.
Il y a quelques années de ça, pas très longtemps.
Et donc voilà, pour que ça continue à perdurer et entretenir, les boîtes étaient fuchsia quand j'étais petite, tout ça, machin.
Tu en as eu quand même, donc.
Non, quelqu'un a voulu m'en offrir, il a pris une baffe. Ceci est une histoire vraie. Ah là là, le pauvre, il avait pas choisi. C'est sa mère qui lui a dit, mais tu vas à l'anniversaire d'une fille, il faut lui amener une Barbie. Mais lui, il savait que c'était pas une bonne idée, mais le pauvre.
Et ce qui m'étonne, moi, c'est pourquoi avoir fait ça à Berlin? Où est-ce que ça va, du coup, se balader
voilà.
dans d'autres capitales
européennes? C'était installé,
il
me semble, pour 3 mois à Berlin. Et ça s'est appelé à être installé dans d'autres capitales européennes. Mais il se trouve que la première semaine d'ouverture, il y a eu des manifestations.
Tu m'étonnes.
D'ailleurs, on en a eu même écho jusque dans les JT en France, ce que j'ai trouvé quand même pas mal, surtout au niveau du traitement dans les reportages, puisque les personnes qui dénonçaient la mise en place, en manifestant ou quand on leur posait la question dans la rue, enfin la majorité des témoignages qui avaient été conservés étaient plutôt opposés à l'installation de cette surface... pseudo-commercial ou peut-être même commercial, parce que j'imagine qu'ils vendent des trucs Barbie là-dedans.
Oui, forcément.
Et donc, enfin voilà, de voir cette nouvelle, ça a été pour moi l'occasion de découvrir le mouvement Pink Stinks, qui est un mouvement donc, qui existe en Allemagne, mais aussi outre-Manche, parce que en fait, Styx, ça se prononce pas exactement pareil, mais ça veut bien dire la même chose de l'autre côté du Rhin ou de l'autre côté de la Manche. Et voilà, j'ai trouvé ça assez intéressant de voir des gens mobilisés contre l'utilisation outrancière du rose à des fins marketing très genrées et sexistes.
Donc l'objectif du mouvement, c'est ça,
c'est de dénoncer
contre...
l'usage du rose, la dichotomie. C'est comme un des trucs que j'aime beaucoup. Enfin, moi, je suis très sensible à ce qui se passe au niveau des jouets, et c'est dans ce type de mouvement qu'on retrouve les affiches qui disent est-ce que c'est un jouet pour un garçon ou une fille ? Alors,
en fonction de la couleur de l'emballage.
Quelle question se poser ? Ouais. Est-ce que ça implique la mise en jeu des parties génitales ? Oui, non. Si ça met en jeu les parties génitales, ça n'est pas un jeu pour les enfants. Si ça ne met pas en jeu les parties génitales, c'est pour tous les enfants. Et c'est d'une simplicité déconcertante. Et voilà, je trouve ça assez intéressant. Et c'est vrai que là, vu qu'on sort des grosses promotions faites des mères, c'est, moi j'ai halluciné, quoi. J'ai vu des... Enfin, j'ai vu des vitrines, même pour les mères, pas seulement les petites filles, quoi, vraiment de rose. Alors, soi-disant pour donner accès aux femmes, entre guillemets, à des activités dites masculines, donc style bricolage, mécanique, etc.
Avec une utilisation intempestive du rose, entre autres. Hein,
voilà, les manches des outils, ils sont roses, ouais, la pochette, elle est rose, et puis dessiné dessus, c'est un peu comme la représentation Bricole Girl. Je ne sais pas si tu te rappelles de ces DVD de bricolage où tu avais des personnes à forte poitrine qui tendaient les outils en petite tenue. Donc, c'était. Enfin, voilà, là, c'est le même type de représentation, la petite silhouette un peu
bizarre. Tu veux parler du DVD de Chantal Lobby ou. Non, c'était. Qu'est-ce qu'elle avait fait?
Oui, c'était ça. C'est bricole. Mais c'était pas Chantal Lobby, c'était les autres nuls. Chantal, elle a fait ça. Je suis choquée. Non, c'est possible.
Mais si, je crois qu'elle a fait un truc comme ça. Très,
non, mais
très
c'est vrai que
degré.
Même. Moi qui ai une forte poitrine, je bricole. Mais je le fais pas en talons et en petits shorts.
Ok. Bah voilà, premier tour de piste terminé pour ce qui est du rose. On en reparlera, je pense, la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine on parle de la couleur bleue, et forcément quand on parle du bleu,
forcément. On fait bien ce qu'on veut.
Pour dénoncer tous les stéréotypes. Encore une fois, on parle du bleu, donc forcément on aborde le rose. On se retrouve la semaine prochaine.
Sans Ghislain encore, c'est trop
sans
triste.
Ghislain encore.
On aura le blues.
On aura le blues, ouais. Ciao, à la semaine prochaine.